Nous lisons dans le livre des Proverbes au chapitre 16, les versets 1 à 3. Les hommes forment des projets, mais c'est au Seigneur qu'appartient le dernier mot. Chacun pense agir toujours correctement, mais le Seigneur juge nos véritables motifs. Confie ton activité au Seigneur et tu réaliseras tes projets.
Dans l'épître de Jacques, au chapitre 3, verset 13, « Y a-t-il parmi vous quelqu'un d'intelligent et de sage ? Qu'il le prouve par sa bonne conduite, par des actes accomplis avec humilité et sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur une jalousie amère et un esprit de rivalité, ne vous vantez pas et ne mentez pas en niant la vérité. Une telle sagesse ne descend pas du ciel. Elle appartient à ce monde et à la nature humaine. Elle vient du diable. Car là où se trouve la jalousie et l'esprit de rivalité, il y a aussi du désordre et toute espèce de mal. Mais la sagesse d'en haut est pure, tout d'abord. Ensuite, elle est pacifique, douce et bienveillante. Elle est pleine de bonté et produit des œuvres bonnes. Elle est sans parti pris, elle est sans hypocrisie. Ceux qui créent la paix autour d'eux sèment dans la paix, et le fruit qu'ils récoltent, c'est la justice.
Dans la deuxième lettre aux Corinthiens, au chapitre 3, nous lisons les versets 3 à 6. Oui, il est clair que vous êtes une lettre écrite par le Christ et transmise par nous. Elle est écrite non pas avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. Elle est gravée non pas sur des tablettes de pierre, mais dans des cœurs humains. Nous affirmons cela en raison de la confiance que nous avons en Dieu, par le Christ. En effet, nous ne pouvons prétendre en aucune façon être capables d'accomplir une telle œuvre par nous-mêmes. Ce que nous sommes capables de faire vient de Dieu, car c'est lui qui nous a rendus capables d'être serviteurs de la nouvelle alliance, qui ne dépend pas d'une loi écrite, mais de l'Esprit Saint. La loi écrite fait mourir, mais l'Esprit Saint donne la vie.
Bonjour à toutes et tous. C'est un plaisir de se retrouver parmi vous, d'évoquer nombre de souvenirs, de se souvenir aussi en particulier des échanges que nous avons eus en famille avec nombre d'entre vous à des moments charnières de nos existences. Alors avant de réfléchir ensemble sur ces textes que nous venons d'entendre, je vous invite à la prière. Seigneur, ce matin, dans le temps de louange, il a été évoqué la question du sérieux que nous apportons à l'écoute de ta parole. Alors ce matin, Seigneur, cette parole, nous voulons la prendre au sérieux. Et nous te prions, Seigneur, de l'éclairer pour nous, d'éclairer nos intelligences, d'éclairer nos esprits par ton Saint-Esprit. Rejoins-nous, Seigneur, dans notre réflexion. Rejoins-nous dans notre célébration. Nous te remettons aussi toutes les célébrations qui ont lieu en ce dimanche, en différentes circonstances. Révèle ton nom, révèle ta personne. Amen. Le thème retenu pour les cultes en commun d'été est celui des proverbes. Et avec en particulier, en ce deuxième dimanche du mois d'août, une réflexion sur une expression radicale s'il en est. L'homme propose, Dieu dispose. L'homme propose et Dieu dispose. Je suis reconnaissant à mes anciens collègues genevois de m'avoir sollicité, ce qui me donne en particulier l'occasion de vous revoir ce matin et d'essayer de deviner les parents par le visage des enfants, ce qui est finalement un signe du temps. Ceux qui me connaissent savent bien que j'aime d'abord placer le panorama à nos réflexions. Alors pour ne pas les décevoir, demandons-nous donc d'entrer ce qu'est réellement un proverbe, et plus particulièrement un proverbe dans la Bible. Un proverbe est une expression courte qui tend à dire une vérité d'expérience ou un conseil de sagesse, nous prenant souvent, il faut l'admettre, à contre-temps, presque à l'envers de ce qui nous paraît naturel. Le style peut en être lapidaire, humoristique ou imagé, mais toujours simple et explicite. Le proverbe trouve largement son origine dans l'expérience humaine, populaire, et tendant vers la maxime, il énonce alors sous forme de proposition courte une vérité morale, une règle d'action. Dans sa partie initiale, l'homme propose, le proverbe de ce dimanche déclare formellement une compétence reconnue à l'être humain. Tandis que la suite se le ramène au principe du divin, Dieu qui alors sanctionne. Je trouve personnellement particulièrement opportun que des expressions qui ne font pas dans la dentelle apparaissent aussi dans la Bible, tandis qu'en d'autres circonstances, dans les Écritures, prévalent la délicatesse et les précautions, ouvrant alors à l'occasion, reconnaissons-le bien, une porte alléchante au raisonnement alambiqué, à l'occasion chère aux théologiens comme un dada ou un péché mignon. Les proverbes offrent au contraire l'avantage de la compréhension immédiate, avec pourtant, nous le verrons, le risque de la caricature. De plus, il nous faut veiller à l'exactitude des transcriptions qui parfois prennent de la latitude par rapport à l'expression biblique, en particulier avec le proverbe de ce matin. L'homme propose et Dieu dispose, qui en vérité n'existe pas sous cette forme dans la Bible. Oui, j'ai bien dit que ce proverbe ne se trouve pas dans la Bible. Comme d'ailleurs, vous l'aurez peut-être relevé à l'écoute de la lecture biblique que Claire vient de faire pour nous. Mais avant de voir cela de plus près, terminons d'abord notre investigation sur les proverbes en général, et plus particulièrement maintenant sur l'origine des proverbes dans la Bible. Les proverbes que l'on trouve dans toute la Bible, et pas seulement dans le livre des proverbes, sont inspirés par la sagesse, une sagesse biblique particulièrement pertinente et pointue. au point d'avoir marqué notre langage commun, comme peuvent l'illustrer ces quelques exemples glanés pour notre culture biblique, alors que nous avons le temps en cette période estivale. Dans l'Ancien Testament tout d'abord, et la Genèse pour respecter la chronologie, être confronté à un véritable tohu-bohu, en référence au chaos originel, état initial de la terre selon Genèse 1, pour décrire un grand désordre ou un état de confusion extrême. Levez les bras au ciel. Vous avez une petite idée? Plusieurs possibilités. Alors, cette expression est là quand on veut s'insurger contre quelque chose, et la référence est faite à l'intercession de Moïse. Moïse, souvenons-nous, qui intercédait selon Exode 17, soutenu par Aaron et Hur, alors qu'Israël combattait Amalek. Tiré du livre de l'Ecclésiaste maintenant, il n'y a rien de nouveau sous le soleil pour dire que tout est recommencement. Ou encore, il y a un temps pour tout, sachant que toute chose bonne arrive en son temps. Toujours selon l'Ancien Testament, mais également repris dans le Nouveau, la trop fameuse loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, principe de vengeance visant à une justice et une équité strictes. Ou tendre l'autre joue, se laisser faire, de fait l'opposé à la loi du talion. En termes de maxime ou de dicton, le Nouveau Testament emboîte le pas à l'Ancien. Souvenons-nous à cet égard que Jésus était considéré lui-même par certains comme un maître de sagesse. Et par exemple, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Et les paroles, ces paroles ne sont pas donc d'un quelconque fainéant, mais bien de Jésus lui-même lorsqu'il met l'homme en garde contre la course effrénée qu'il s'impose lui-même par ses choix de vie. Bâtir sur le sable quand un projet s'échafaude sur des fondements fragiles, parler ou prêcher dans le désert, ce que j'espère ne pas faire ce matin, donner son avis sans effet, conseiller sans être écouté. Déplacer, soulever, transporter les montagnes, accomplir des choses qui paraissent à première vue impossibles. Jeter la première pierre pour montrer qu'il est facile d'accuser. Et pour terminer, les extraits de dialogue de Jésus sont aussi devenus de véritables références. Rendre à César ce qui est à César, pour dire que chacun doit parvenir à la reconnaissance due à ses efforts et rendre à chacun ce qui lui est dû. Sans laver les mains, c'est-à-dire estimer que ce n'est pas son problème. Somme toute, et j'ouvre là une petite parenthèse, l'influence chrétienne dans notre culture n'est pas aussi réduite que ses détracteurs le déclarent, puisque le langage contemporain se nourrit volontiers de l'héritage biblique. Fin de parenthèse. Dans la Bible et dans l'Ancien Testament, avant tout, la sagesse est pratique et illustre le savoir-faire de l'artisan, alors le sage. Les réflexions du livre des Proverbes sont attribuées à Salomon, le roi avisé et sage, quand bien même cette attribution peut paraître abusive. Elle en accentue néanmoins l'importance et en renforce le sens. Le sage de la cour observe, écoute, pratique la justice. Le sage sait prendre du recul. Nous relevions tout à l'heure l'influence des proverbes bibliques dans le langage commun, il convient aussi de réaliser que la sagesse dans l'Ancien Testament s'inspire, elle aussi, largement des cultures voisines. Le cœur de la sagesse, pour clore cette brève appréhension de la sagesse biblique, est, si on veut résumer, de servir Dieu. Servir Dieu en ayant du respect pour lui, et pas seulement de belles paroles. La sagesse devient ainsi une forme de savoir-vivre selon la Bible et représente désormais une quête pour l'homme, l'humain, s'il veut vivre heureux. Dit différemment encore, cette sagesse selon la Bible se présente sous forme de collection de dictons pour réfléchir sur le bien et le mal afin de devenir adulte. Venons-en maintenant, enfin, peut-être, me direz-vous, au proverbe qui, ce matin, nous échoit. L'homme propose et Dieu dispose. Cette forme, en demeurant concise et provocante, n'est pas biblique, nous l'avons dit. De plus, avec elle s'ouvre l'éventualité malencontreuse d'un Dieu dominateur et oppresseur qui imposerait sa volonté de manière arbitraire à sa créature, l'homme, l'humain. Sous forme de dicton, dès lors populaire, l'expression « l'homme propose et Dieu dispose » ne représente, je pense, qu'une caricature réductrice de l'expression biblique que je vous propose d'approfondir maintenant. Alors pour ce faire, voyons déjà ce que nous apportent les traductions les plus représentatives. L'expression la plus synthétique, me semble-t-il, revient à la TOB, la traduction œcuménique de la Bible. À l'homme les projets, au Seigneur la réponse. À l'homme les projets, au Seigneur la réponse. La plus imagée, comme d'habitude, provient du texte de la Bible selon la version Chouraki. À l'humain les manœuvres du cœur, à l'Adonai la réplique de la langue. À l'humain les manœuvres du cœur, à l'Adonai la réplique de la langue. Quant à la traduction Darby, chère à notre histoire d'Église, elle nous dit en substance, la préparation du cœur est à l'homme, mais de l'Éternel est la réponse de la langue. La préparation du cœur est à l'homme, mais de l'Éternel est la réponse de la langue. Rappelons le texte biblique en français courant qui nous a été lu. Les hommes forment des projets, mais c'est le Seigneur qui a le dernier mot. Les versions, nous l'observons, les plus littérales de la Bible contiennent ainsi l'expression et la mention du cœur et de la langue. Du cœur et de la langue. Deux mots importants, présents dans le texte hébreu, mais que les versions raccourcies ont donc retranché, certainement rebuté par la particularité hébraïque de cette expression, ne conservant que le principe général, comme dans le sommaire entendu, l'homme propose et Dieu dispose. Cette observation sur la précision des traductions m'apparaît essentielle pour une juste compréhension du proverbe de ce dimanche. Nous pouvons ainsi relever que selon ce verset, l'homme, l'humain, est expressément représenté par son cœur. C'est en effet l'activité de son cœur qui lui prodigue des conseils et lui suggère ses dispositions. Le cœur est d'abord le siège de la pensée, de la réflexion et de l'intelligence. Il est encore ensuite le lieu où se manifestent les émotions. Et c'est là encore que s'éprouvent les sentiments aussi divers que l'amour, la douleur ou la crainte. Au sens propre et figuré, le cœur apparaît comme le siège de la vie et le lieu de l'expression de la volonté et du courage. Ainsi, en termes bibliques, notre activité cardiaque concerne nos modes d'existence, de pensée, de réflexion et détermine les actions que nous prenons. Dès lors, c'est dans le cœur que siège la volonté et que se prennent les décisions, puisqu'y réside l'intellect et se manifeste donc la sagesse. En termes de connaissance et d'expérimentation, le cœur représente l'intériorité, ce qui relève de l'esprit et des sentiments. De fait, l'humain est autonome dans sa réflexion. Il forme des projets et s'organise selon les dispositions de son cœur, de son mental, selon les sentiments, selon ses sentiments, ses pensées, sa réflexion, sa volonté et son intellect. En bref, en hébreu biblique, le cœur est le centre de tout. Former et formuler des projets est donc vital pour l'humain. Après l'écoute de la requête, de la prière, formulée donc par le cœur de l'homme, nous l'avons développé, Dieu répond, conclut la deuxième partie de notre proverbe. Le texte précise alors que la réponse que la langue formule, cette réponse vient de lui, qu'elle soit d'ailleurs favorable ou pas. Ratifiant ou désapprouvant une requête, ultimement, Dieu sanctionne. Sanctionne donc le projet de l'homme, positivement ou négativement. Relevons au passage qu'il n'est pas précisé de quelle langue il s'agit. La langue qui s'exprime peut être autant celle des autres que la nôtre. Souvenons-nous de quelques exemples de manifestations de la langue dans les Écritures. Celle des prophètes, en premier lieu, dont les lèvres peuvent être purifiées par des charbons, selon l'expression d'Ésaïe. La langue de Balaam, ensuite, saisie par Dieu, qui par trois fois bénit au lieu de son intention de maudire. Ou l'apôtre Jacques encore, quelques versets avant notre lecture de ce jour, dans un vocabulaire pas piqué des hannetons, que je vous invite à redécouvrir dans une lecture personnelle. Et Jacques attire notre attention sur les dangers de la langue. Un petit organe pour lui, à maîtriser absolument, en sachant donc la tenir, sa langue. La langue, petit organe qui ne représente qu'un tout petit pourcentage de notre masse corporelle, il est vrai, de l'ordre du millième, estime la science, mais dont les effets peuvent être dévastateurs. Autre précision, si la langue est à comprendre dans notre contexte comme l'expression de la pensée, au sens physiologique, la langue permet de goûter aux choses par l'exercice des sens que sont le toucher et l'olfaction, dans le but de manger et d'avaler, donc de se nourrir et de vivre. Se trouve ainsi dans le rôle joué par la langue quelque chose de vital et d'essentiel, puisque fonctionnel et nécessaire à la croissance, mais aussi, nous le comprenons, quelque chose de spirituel, tenant compte de l'expression et d'un lien qui se tissent et demeurent à cultiver. Dans le mouvement, le Nouveau Testament précise que nous n'avons pas à nous soucier des paroles que nous sommes appelés à formuler pour notre défense, mais que le Saint-Esprit nous inspirera. Voilà qui nous rappelle aussi les langues de feu se déposant sur les personnes à la Pentecôte, permettant de se comprendre par-delà les différences de dialecte et de langage. Prenant en compte les diverses formes que l'expression de la langue peut revêtir, je pense qu'il n'est pas usurpé de dire alors que notre langue est sans cesse, elle aussi, appelée à se convertir. Dès lors que la langue et sagesse vont de pair, puisque les paroles de la langue sont à éprouver. Je conclurai maintenant en affirmant la nécessité pour tous de formuler des projets. Nous avons en mémoire, je pense, l'exemple de proches, d'amis, de frères et sœurs qui s'inquiètent à juste titre de connaître la volonté de Dieu pour eux, pour leur famille, et se soucient ainsi de leur avenir. Et attendent avant de formuler tout projet. Pourtant, à trop attendre parfois des réponses qui n'arrivent pas selon nos voeux, on passe certainement par-dessus de réelles opportunités, aussi modestes soient-elles d'ailleurs, telles le service et l'ouverture à autrui, ou dans la simple affirmation d'une présence bienveillante. Aussi, j'aimerais proposer pour chacune et chacun d'entre nous la mise en place sans tarder d'actions et de projets qui sont chers à nos cœurs, des projets que la réalité de la vie sanctionnera dans le sens de leur réalisation ou au contraire de leur redimensionnement. Car il est commun d'observer que l'on apprend davantage d'un échec que d'un succès. La sagesse, c'est aussi cela. Ce que nous apprenons de l'extérieur, de la langue, pour être précis et pour reprendre la deuxième partie de notre proverbe, passer au crible d'un esprit de discernement doit pouvoir nous être bénéfiques et nous permettre de devenir d'authentiques servantes et serviteurs de la nouvelle alliance dont l'apôtre Paul nous parle dans sa lettre aux Corinthiens. Amen.
Glorifions le nom du Seigneur, glorifions le nom du Seigneur le Très-Haut. Le nom du Seigneur est un refuge, le juste accourt dans ses murs pour être sauvé.